When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Thomas Rozek. La semaine dernière, lors de notre épisode sur les zinzins d'Internet et leur potentielle prise de pouvoir dans le débat public, l'un de nos invités, Samuel Laurent du Monde, a glissé, au détour d'une phrase sur l'usage des réseaux sociaux, ce petit bout d'info.
Quand on est sur ces réseaux, on se rend bien compte qu'on n'est pas harcelé en permanence par des jeunes lycéens. On est harcelé par des gens âgés. Par des gens parfois très âgés, et moi je pense vraiment qu'il y a un truc qu'on n'a jamais étudié, je suis convaincu qu'il y aurait une belle étude de sociaux à faire par là, par l'appropriation des outils sociaux par une génération senior.
Et à la réécoute, ça fait tilt. On s'est dit qu'avant une éventuelle étude de sociaux, parce que ça, on a quand même moyen le temps, ça ferait surtout un excellent sujet d'émission. Parce qu'en y réfléchissant bien, on a à peu près tous dans notre cercle de proches un oncle, une tante, un grand-père qu'on a fini par masquer sur Facebook parce qu'il partageait essentiellement des liens venus de réinformation.com ou des photomontages assurant qu'Emmanuel Macron préférait les migrants aux Français. On a tenté d'en trouver, d'ailleurs, pour les faire témoigner, sans succès. Ça n'empêche pas de nous interroger. Que font nos aînés sur Internet? Est-ce qu'ils se sont mutés sans qu'on s'en rendre compte en affreux troll complotiste? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Alors il faut savoir que selon les derniers chiffres publiés par le blog du modérateur, les seniors représentent un quart des internautes. 43% des plus 60 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux, ça en fait du monde. Et pour démarrer notre réflexion, on a eu envie de savoir si oui ou non ils étaient plus touchés que les jeunes par les vagues récurrentes de désinformation que charrie le web. On a donc passé un coup de fil à Guillaume Brossard, le cofondateur de la plateforme Oxbuster, qui depuis des années traque les fake news, et je lui ai demandé si nos vieux étaient devenus des trolls.
Alors les vieux, déjà il faut essayer d'arriver à définir ce que c'est qu'un vieux, mais globalement je pense que c'est en tout cas une cible tout à fait adaptée à tout ce qui est tout ce qui est la désinformation aujourd'hui en ligne. Et puis ce sont des gens qui sont particulièrement réactifs et qui aiment bien se partager des choses un petit peu provocantes et souvent réactionnaires. Donc, je crois qu'on peut assez facilement les cataloguer comme les principaux trolls d'Internet. Globalement, tout le monde est potentiellement un troll sur Internet. C'est-à-dire qu'on a vite fait de mettre en avant ses convictions plutôt que de savoir se poser, raisonner un petit peu et puis essayer de voir ce qui est vrai ou faux sur Internet avant de balancer tout et n'importe quoi. Mais globalement, c'est une catégorie de la population qui a pris Internet plutôt sur le tard, qui s'y est mis assez tard, qui n'a pas forcément tous les codes que les jeunes ont su développer au fur et à mesure du temps, notamment dans la conversation, voire même dans la provocation parfois, parce que les jeunes aussi savent très bien provoquer. Et du coup, de par leur manque de maîtrise, je dirais, de l'outil, ils vont faire ce qu'ils savent faire globalement. Donc en très gros, hein, évidemment, je schématise, mais en très gros, ils savent aller sur Facebook et puis partager des choses qu'on leur envoie. Donc je pense qu'il manque cruellement de formation aux outils du web et principalement aux réseaux sociaux, et que comme ils sont complètement oubliés de tous les plans de formation ou d'éducation aux médias ou d'éducation aux sources à l'information, tout ce qu'on veut, bah oui, ça en fait une cible privilégiée, d'autant qu'ils ont, comme ils n'ont pas, eux, ils ont été élevés sous un format d'information qui n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui, qui est Internet. Eux, c'était on allumait la radio, la télé, ou on lisait le journal et on avait l'information comme ça. Donc, ils sont complètement submergés par ces nouveaux formats qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ils ne savent absolument pas, pour eux, une information qui leur arrive, elle est vraie. Contrairement aux jeunes qui, eux, ont bien compris que, en fonction de la source, il pouvait y avoir des choses vraies, des choses fausses. Et ils sont beaucoup moins, je pense, beaucoup moins sensibles en tout cas quand eux font de la provoque, ils le font de manière ils savent ce qu'ils font, quoi. Alors que les personnes âgées, beaucoup moins, ils sont on peut beaucoup plus facilement les désinformer, en tout cas, oui, ça c'est clair.
Je me demandais si aussi il n'y avait pas une partie de cette désinformation qui nous échappe en passant par des canaux qu'on voit moins que les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs plus anciens. Parce que c'est les chaînes de mail, ça a existé assez fortement il y a quelques années. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on vous en signale toujours?
Alors, c'est rigolo ce que tu dis, parce que les chaînes de mail aujourd'hui, c'est devenu quand même très très marginal. Ça continue de circuler, effectivement. On continue de nous en signaler. Ce sont généralement des choses qui sont aujourd'hui reprises de réseaux sociaux, mises au format mail et puis balancées effectivement au carnet de contact. Et là, je peux le dire sans prendre de pincettes, c'est systématiquement effectivement des personnes âgées qui continuent à communiquer via ce média. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est devenu quand même quelque chose de très marginal. On en reçoit, nous, quasiment plus, pour ainsi dire, pas. Et en tout cas, c'est toujours des choses qu'on a déjà vu circuler sur les réseaux sociaux.
Et Guillaume, est-ce que c'est un public qui est sensible à la vérification, au travail que vous faites avec Oxbuster, par exemple, tout ce qu'on appelle en général le débunkage, la lutte contre les fake news? Est-ce que c'est efficace auprès d'eux?
Ceux qui ont compris, ils sont effectivement très sensibles. Beaucoup plus, là encore, que les jeunes. Les jeunes, il leur faut, je crois, sans vouloir là non plus caricaturer, je crois qu'ils aiment bien le débunkage à la sauce un peu quotidien, tu vois, où il y a un peu de, il faut que ça aille vite, que ce soit sympa, que ce soit plutôt rigolo. Et là, ça marche sur la cible des jeunes. Par contre, le débunkage un peu plan-plan, comme nous on peut faire, ou que les autres médias peuvent faire, qui est là pour expliquer comment ça. Effectivement, c'est plus les personnes âgées qui vont aller vers ce type de débunkage-là, sachant que dès lors que, par exemple, Oxbuster, c'est quelque chose qui les touche assez peu, sauf ceux qui en ont été informés généralement par leurs enfants, auquel cas ils y viennent. Mais sinon, ils vont plutôt aller vers leurs sources d'informations traditionnelles. Donc, ça va plus être les débunkages qui sont faits par Le Monde, l'AFP maintenant aujourd'hui, ou voilà, France 24, Libé, en fonction des médias traditionnels qu'ils aimaient bien. Alors ça, c'est la catégorie de population chez les seniors qui est encore sensibilisée à ça, mais il y a toute une partie qui ne veut même pas en entendre parler, puisque eux, leurs convictions sont de toute façon tellement ancrées qu'un débunkage ne les intéresse absolument pas. Mais ça, on retrouve un peu ce phénomène dans toutes les couches de population.
Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ces internautes oubliés des radars, on s'est tourné vers des chercheurs, des spécialistes de la sociologie du web, comme Arnaud Mercier. Il est professeur à l'Université Paris 2 en information et communication. Et je lui ai demandé quel usage les seniors font d'Internet aujourd'hui.
Alors, il y a quelques éléments qu'on peut détacher. D'abord, montrer que si on prend le cas emblématique de Facebook, il y a eu une appropriation finalement un peu plus tardive de gens plus âgés. Et plus on va vers les seniors passés 65, et plus c'est vrai, qui s'est fait par une forme de socialisation familiale. Les enfants et les petits-enfants, et que du coup, dans l'appropriation de Facebook chez les personnes âgées, on va dire les gens qui sont en âge d'être grands-parents, finalement, un des usages, c'est aussi de garder le lien avec la famille. Garder le lien avec ses enfants, garder le lien avec ses petits-enfants, il y a un côté pratique, on échange des photos de famille, on se parle comme ça, et puis même retrouver des filiations, parce que ça permet de retisser du lien avec des gens qui sont au loin, qui sont partis en province, partis s'installer à l'étranger, des choses comme ça, et des cousins, des oncles, des tantes, enfin ce genre de choses. Donc il y a une appropriation très forte pour la partie entretien du lien de famille. Il y a aussi, bien sûr, une deuxième dimension qui est présente également, c'est la dimension s'informer, utiliser, bien sûr, ces technologies, le téléphone, les applis mobiles et tout ça, pour pouvoir accéder à l'information, ce qui était au départ plutôt, on va dire, réservé aux cadres et réservé au public plus jeune. Donc, on voit effectivement des personnes plus âgées se mettre progressivement au même type d'usage. Et puis, on a également une dernière dimension qui a commencé à pointer, c'était celle qui est liée à un certain nombre d'applis. D'applis pratiques, hein, comme par exemple évidemment les applis bancaires, comme par exemple des applis de la vie pratique, SNCF ou autres, qui font que finalement les gens, y compris plus âgés, se sont mis à être des utilisateurs eux aussi, sans doute pas les premiers au départ, mais en voyant la praticité des choses.
Quand on a discuté la semaine dernière dans une émission avec Samuel Laurent, donc qui est journaliste au Monde, au Décodeur, qui s'occupe notamment beaucoup de fake news et qui est souvent la cible de trolls sur Internet et de cyberharcèlement, il nous disait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de ces trolls, beaucoup des gens qui l'agressaient verbalement, on va dire, sur Internet, étaient plutôt des quinquagénaires, voire des sexagénaires. Et selon lui, ce n'était pas un phénomène qui était très étudié non plus. Est-ce qu'il y a une part de militantisme comme ça qu'on ne voit pas non plus, qui échappe un peu à nos radars ?
Oui, il a tout à fait raison. L'idée, c'est que... Là, ce n'est pas les idiots utiles dont on parle. Cette fois-ci, ça devient ceux qui sont à la manœuvre pour agir par conviction et par engagement politique en faveur d'un tel et telle opinion plus ou moins radicale. Et là, en effet, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que on le voit bien, les statistiques produites par la science politique sont formelles. Vous avez d'autant plus de chances d'être engagé politiquement, de voter avec régularité si vous êtes âgé que si vous êtes jeune. Donc, c'est exactement le contraire de l'appropriation d'un certain nombre de nouvelles technologies ou autres. C'est au contraire chez les publics plus mûrs que vous allez trouver le plus de gens en âge de se mobiliser et ayant suivi en plus une socialisation politique qui fait que ils ont connu l'époque, j'allais dire, d'avant la chute du mur de Berlin, qu'on va prendre comme une sorte de symbole commode, hein. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais parce que on peut utiliser la chute du mur de Berlin comme une sorte de symbole de la perte de vitesse d'un certain nombre d'idéologies et d'engagements militants en croyant réellement à la capacité de changer le monde, en fait. Et donc, face à cette décroyance, le public jeune, qui était déjà tenté de ne pas trop s'engager, s'engage de moins en moins. Et donc, les gens, au contraire, les plus engagés, vous allez les trouver chez ce qu'on va appeler, du coup, les vieux militants. Donc, en effet, chez certains activistes, avec H-A-C-K, hein, des actions, activistes, comme disent les anglo-saxons, vous allez en trouver beaucoup qui sont en âge mûr, on va dire 40 ans et au-delà, parce qu'ils font encore partie de ces générations qui sont très politisées et qui ont envie d'en découdre et qui ont envie de défendre leurs convictions et qui ont trouvé, pour ces positions radicales en plus, dans les réseaux sociaux et l'Internet en général, mais particulièrement les réseaux sociaux, ils y ont trouvé un contre-espace public, c'est-à-dire un lieu où, justement, ils pouvaient partager leurs convictions avec d'autres gens, se rencontrer en ayant l'impression de ne plus subir ce qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire un sentiment d'ostracisation parce que leurs positions très radicales et extrémistes ne sont en effet, c'est parfaitement exact, pas relayées par les médias grand public qui ne se permettent pas de relayer ces excès. Et donc, effectivement, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas visibles dans l'espace public médiatique, d'où leur appropriation de ces espaces comme des contre-espaces publics où là, enfin, ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir voix au chapitre et pouvoir se reconnaître entre eux et partager leurs convictions.
Donc l'âge aurait bien un impact sur notre comportement en ligne. Mais ça n'est pas la seule variable sociologique à prendre en compte. On en a discuté avec une autre chercheuse, Josiane Jouette. Elle est également professeure à Paris 2. Elle a notamment co-dirigé l'étude « S'informer à l'ère numérique ».
Ceux qui s'expriment aussi, dans la majorité des cas, avec ce type de propos et relayant de la désinformation, ce sont très souvent des gens peu éduqués. Et on oublie toujours la variable qui est la plus importante qu'on a dans toutes les enquêtes, qui est effectivement le niveau d'éducation. Donc chez les seniors, il y en a qui sont éduqués, mais le niveau d'éducation des seniors en général est plus bas, disons, que chez les jeunes. Vous pensez que beaucoup de personnes qui ont 70 ans, il y avait à peu près 10 à 12% qui allaient à l'université, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc il y a une élévation du niveau d'éducation. Et dans les enquêtes qu'on a, on a travaillé là pendant 4 ans sur une recherche « S'informer à l'ère numérique », « S'informer des nouvelles, actualités ». Et on a vu de très très grandes différences chez les jeunes, peu éduqués, ceux qui avaient un bon niveau d'éducation, en fait dans toutes les classes d'âge, y compris chez les seniors. Et donc quand les gens sont éduqués, eh bien, ils ont une autre relation à l'information. Ils sont beaucoup moins susceptibles, disons, d'avoir une méfiance de base envers les médias, de critiquer les sources dites d'autorité et a priori crédibles, disons, sur les nouvelles. Donc la variable âge est absolue, enfin disons éducation, excusez-moi, est extrêmement importante. Il faut voir aussi que les seniors qui s'expriment sur les réseaux sociaux autour de l'actualité, ce sont souvent des retraités et ils ont du temps libre. Donc on rentre dans l'économie de l'attention.
Oui, c'est ce que Samuel Laurent disait dans notre émission.
Oui, je suis
justement
entièrement d'accord avec ça. Et donc ils ont du temps libre, voilà, et on est face à des individus aussi qui non seulement ne sont pas nécessairement éduqués, certains peuvent être éduqués, mais enfin je pense que la majorité qui sont dans l'optique fake news est relativement peu éduquée.
Mais est-ce que justement en éduquant les jeunes, on ne pourra pas avoir un levier quelque part vers les seniors? Je pense à ça du point de vue de la transmission générationnelle qui joue beaucoup, je sais, dans l'accès notamment aux réseaux sociaux, qui est un facteur d'accès des seniors aux réseaux sociaux qui vont pour être en contact avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Est-ce que justement en éduquant les plus jeunes, on ne va pas par ricochet, j'ai envie de dire, éduquer les anciens?
C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il est très intéressant dans cette société. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons des jeunes qui forment les anciens et donc qui vont transmettre leur savoir aux aînés et qui sont les experts, entre guillemets, dans les foyers auprès des aînés. Il faut quand même relativiser les choses. Les 75 ans, la majorité d'entre eux, puisque nous sommes dans une société de service, ils ont utilisé un ordinateur et Internet au travail. Voilà. Donc ce ne sont pas des individus qui, à 70 ans, vont dire qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur. Donc il y a déjà une culture numérique qui existe chez les jeunes seniors. Alors, dans les usages plus à la pointe, bon, comme les réseaux sociaux, même s'ils sont plus si récents que ça, hein, ils datent de 2005, donc ça fait 13 ans déjà, en fait, il y a sans doute eu, disons, une forme d'apprentissage venant des jeunes. L'apprentissage technique est possible. L'apprentissage au niveau des comportements, du contenu, voilà, ne pas... Je pense que c'est très très difficile, puisque c'est leur plaisir, voyez-vous. Donc, même si les jeunes leur disent... faites attention, ça c'est fake news ou pas, à la limite, ils vont dire oui. Mais à la limite, ils s'en fichent, à mon avis, que ce soit des fake news ou pas. Ils sont là pour faire du buzz, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour, en fait, perturber, disons, le débat public.
Alors certes, il est peut-être un peu tard pour former les plus anciens aux bons usages du web, mais tout de même, si vous aviez peur de manquer de sujets de conversation à Noël, en voilà un tout trouvé. Lancez votre tonton, votre tante ou votre grand-père troll sur les mérites d'un comportement raisonné en ligne. Ça peut fonctionner, en tout cas ça vaut au moins le coup d'essayer. Merci à Guillaume Broussard, Arnaud Mercier et Josiane Jouette pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.